Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Aliette Ovine et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierre Faucillon.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier jour de notre série consacrée au pouvoir de la sanction. Lundi, nous avons été les témoins de la bataille économique qui a opposé Napoléon à la perfide Albion. Mardi, nous avons égrené la liste des petits châtiments entre États avant d'examiner mercredi les méthodes de l'administration américaine pour soumettre les entreprises étrangères. Aujourd'hui, ce sont les principes mêmes du jugement et de la peine que nous allons interroger. Les sciences sociales s'intéressent depuis longtemps aux inégalités de classe, de race et de sexe que subissent les individus confrontés à la justice. Mais peu de travaux se sont attachés à questionner l'appareil pénal et à ce qu'il dit de notre société. Que signifie juger et punir? Et comment imaginer un système judiciaire plus juste? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons passer au crible l'idée même de la sanction en compagnie de Geoffroy de Laganerie, sociologue et philosophe, et auteur de cet ouvrage « Juger, l'état pénal face à la sociologie » paru chez Fayard en 2016. En fin d'émission, Amélie Perrault sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. C'est l'indéniable grandeur du judiciaire de devoir attirer l'attention sur la personne individuelle, même à l'époque de la société de masse, où tout le monde est tenté de se considérer comme un simple rouage dans une machine, que ce soit la machinerie bien huilée d'une énorme entreprise bureaucratique, la machinerie sociale, politique ou professionnelle, ou encore la structure chaotique et aléatoire des circonstances dans lesquelles nous passons tous notre vie d'une certaine manière. Le déplacement presque automatique de responsabilité, qui a lieu d'habitude dans la société moderne, s'arrête soudainement lorsqu'on entre dans un tribunal. Toutes les justifications de nature abstraite et imprécise cessent. Quoi que puissent affirmer les modes scientifiques de l'époque, quelle que soit leur pénétration dans l'opinion publique et donc leur influence sur les praticiens du droit, l'institution elle-même les défie et doit les défier toutes ou bien cesser d'exister. Bonjour Geoffroy de Laganerie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est un extrait d'un ouvrage d'Anna Arendt, Responsabilité et jugement, qui ouvre cette émission. Anna Arendt qui nous explique donc que pour juger, il faut à tout prix individualiser la responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision et de ce texte que l'on vient d'entendre?
Je pense que c'est un texte très beau, mais c'est un texte, moi j'aime beaucoup Anna Arendt et je considère que c'est vraiment une auteure passionnante et très importante. Mais pour moi c'est un texte où vraiment elle est assez effrayante et où elle abdique le pouvoir la nécessité de la pensée par rapport aux institutions sociales qui nous sont léguées. En fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle essaye de nous dire, c'est qu'il existe dans le monde social des institutions, des socialisations, des forces qui nous déterminent à être ce que l'on est et que nous le savons tous. Mais ce qu'elle appelle la grandeur de la justice, c'est de le nier. C'est-à-dire que la justice, effectivement, ce qui est vrai, est un monde qui se construit sur la négation du monde social et sur le refus de prendre en compte les forces sociales, la socialisation, les institutions, les pressions pour expliquer, pour comprendre le geste d'un individu. Ce qu'elle appelle la grandeur, pour moi, c'est ce que j'appelle l'arbitraire et la violence du monde judiciaire, c'est-à-dire qu'il se fonde en faisant comme si ce qui est n'est pas et en niant la vérité du monde social. Et alors à la place d'Anna Arendt qui dit que la grandeur de la justice et la grandeur de l'intellectuel selon elle, ce serait de dire bah oui la justice ne cède pas à la problématique sociologique au nom de la responsabilité individuelle, moi je pense que le rôle de l'intellectuel c'est de dire si jamais on sait qu'il y a une distance entre ce que nous savons du monde et la manière dont la justice construit le monde, alors nous devons interroger la justice et aller le plus loin possible dans le fait de mettre en question l'institution judiciaire dans son fonctionnement. Donc effectivement, c'est très bien d'avoir commencé par cet extrait parce qu'on voit un peu deux éthiques intellectuelles. Est-ce que comme Arendt, on place au point de départ de la démarche intellectuelle de ratifier les institutions contre l'évidence du monde social, ou est-ce que comme moi, on part de l'évidence du monde social pour aller en démarche oppositionnelle et frontale par rapport aux institutions, quitte à les détruire?
Alors justement, en quoi la justice nie-t-elle, selon vous, la réalité du monde social? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors de fait, la justice pénale contemporaine, elle est fondée sur un principe et un seul, qui est l'individualisation des perceptions, c'est-à-dire selon laquelle la commission d'une infraction ou d'un délit ou d'un acte dans le monde quel qu'il soit a pour cause un individu. C'est-à-dire que la justice contemporaine, elle est fondée sur un récit, sur une narration du monde, sur une construction symbolique qui vise à dire que quand un acte se produit dans le monde, il faut chercher la cause dans un individu et pas le chercher en dehors de l'individu, c'est-à-dire excuser, c'est-à-dire chercher dans les déterminations sociales qui pèsent sur les individus, et que l'idée même de mettre dans un box quelqu'un un individu, de raconter une histoire avec une action, une victime ou un traumatisme, et de dire on va lier les deux, c'est une construction symbolique, c'est un coup de force symbolique qu'opère l'État pénal, qui se fait au détriment d'une appréhension socio-politique du monde en fait. Et donc de ce point de vue-là, l'appareil répressif d'État, qui est indexé à l'idée de responsabilité individuelle, suppose une narration individualisante du monde.
Et ce que vous dites, c'est que le fait, par exemple, comme peut le dire quelqu'un comme le sociologue Laurent Mukeli, le fait que 95% des auteurs d'homicides appartiennent aux milieux sociaux les plus défavorisés, ce fait-là est nié et occulté au moment du jugement.
Voilà, en fait, le principe, c'est que moi, j'ai le livre jugé, je l'ai fait à partir d'une ethnographie de procès d'assises. J'ai assisté pendant 2 ans à des procès d'assises à la Cour d'assises de Paris. Donc les procès d'assises, c'est là où on juge les crimes les plus graves, hein, ceux qui sont passibles de plus de 10 ans d'incarcération. On voit des viols, on voit des meurtres, du terrorisme, du braquage, du grand banditisme, etc. Et en fait, devant la Cour d'assises, vous avez ce qui s'appelle le greffe, c'est-à-dire vous avez les noms des individus qui sont jugés. Et quand vous voyez ces noms, vous voyez de façon majoritaire, enfin hyper représentation, des individus, des non-blancs, c'est-à-dire en gros des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des migrants, etc. Et quand vous assistez au procès, moi ce que j'ai vu, c'est clair, hein, ce sont que des fractions précarisées du monde social qui comparaissent, c'est-à-dire des clochards, des sans-papiers, des ouvriers, donc tous des individus qui sont dans des positions dominées socialement. Quand vous allez en correctionnel, en comparution immédiate, c'est exactement la même chose. Donc la question que moi je pose, c'est que les juges savent bien que ce que leur envoie la société à juger, c'est les individus qui appartiennent aux fractions précarisées du monde social. La statistique de Laurent Mukeli, elle est impressionnante. Il a fondé ça sur un dépouillage d'archives de Seine-Saint-Denis, je crois. Et il s'est rendu compte que 95% des auteurs d'homicides étaient des fractions précarisées des milieux populaires. Donc même pas les milieux populaires, mais les fractions précarisées et les victimes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se tue entre soi dans ces milieux-là. À partir du moment où il y a cette évidence du fait que c'est le monde social qui vous envoie des individus à juger, la possibilité pour que vous puissiez juger suppose de nier cette évidence. C'est-à-dire que les juges voient bien qu'ils jugent que les pauvres, en gros, qu'ils jugent que les dominés, mais ils doivent pouvoir inventer des manières de juger quand même, et de juger malgré la vérité du monde social. Et un procès, c'est un lieu, en fait, qui ne cherche pas du tout la culpabilité, parce que la culpabilité, très souvent, elle est évidente, elle est donnée. C'est un lieu qui invente une narration antisociologique du monde pour laisser l'appareil répressif d'État fonctionner.
Alors, la question qui se pose, Geoffroy de Laguenerie, c'est pourquoi est-ce que l'État pénal cherche à individualiser la responsabilité? C'est la condition pour juger, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Alors c'est une question très compliquée, ça, toujours la question des intentions ou des volontés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique qu'on fait ça? Déjà, il faut penser qu'il y a une inertie du monde social qui est très grande. Je pense, c'est Thierry Lévy qui disait ça, et c'est très très juste, et il faut le penser, que la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est en gros juge, accusé, procureur, pour régler un délit, c'est une forme qui date en gros du XIIIe siècle, et c'est peut-être une des formes sociales les plus ininterrogées de notre société, peut-être les plus stables. On a changé de capitalisme, on a changé les modes de production économique, on a changé la famille, on a changé la place des femmes, on a changé la question des nations, mais juger, punir, mettre en prison, c'est peut-être l'une des formes sociales les plus stables du monde social, peut-être avec l'université d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, il y a là un impensé social qui est extrêmement fort, et on a beaucoup beaucoup de mal à penser une société sans tribunal. C'est vrai, hein. On peut très bien penser une société sans nation, je pense que les gens peuvent le penser, une société post-capitaliste, ça se pense, peut-être ça se pratique même déjà. On a une société qui accueillerait les migrants, on peut le penser, mais supposons qu'après un délit, il n'y ait pas de jugement, pas de punition, ça apparaît impensable. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce coin-là de le plus profond de ce que c'est qu'une société humaine dans la question de l'organisation de système judiciaire. Alors moi je pense qu'il y a une thèse que défend un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul Fauconnet, qui était un élève de Durkheim, et qui dit que au fond, si on croit à l'idée de sociologie, on doit accepter le fait que nous sommes tous responsables de tout ce qui arrive dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité inconditionnelle, et qu'à partir du moment où nous sommes tous pris dans le monde, dans des systèmes de pouvoir, nous sommes tous imbriqués dans la société, et que donc tout ce qui se produit est en rapport avec tout le monde.
Donc c'est une façon de se dédouaner, de dédouaner les autres, d'individualiser la responsabilité?
Exactement, ce que dit Fauconnet, c'est qu'en fait le principe de la responsabilité individuelle, c'est de nous déresponsabiliser, c'est-à-dire de faire en sorte que nous ne nous sentions pas coupables quand quelque chose arrive dans le monde, que nous ne nous sentions pas responsables quand quelque chose arrive dans le monde. Et le but de la sanction pénale, en fait, elle s'adresse pas tellement aux délinquants, elle s'adresse à nous, et elle nous dit non, ne vous sentez pas coupable quand quelque chose comme un meurtre se passe, comme une agression se passe, quand un braquage se passe, c'est sa faute, c'est sa responsabilité, c'est individuel, c'est pas social. Et donc c'est un principe de conservatisme en fait social très puissant.
Geoffroy de Laguenerie, il était difficile de faire cette émission sans entendre les mots de Michel Foucault.
Il ne s'agit pas pour le discours psychiatrique en matière pénale d'instaurer, comme disent les gens, une autre scène, mais au contraire de dédoubler les éléments sur la même scène. L'expertise psychiatrique permet de doubler le délit, tel qu'il est qualifié par la loi, de toute une série d'autres choses qui ne sont pas le délit lui-même, mais une série de comportements, de manières d'être, qui, bien entendu, dans le discours de l'expert psychiatre, sont présentés comme la cause, l'origine, la motivation, le point de départ du délit. En effet, dans la réalité de la pratique judiciaire, elles vont constituer la substance, la matière punissable.
Un extrait d'un cours de Michel Foucault au Collège de France en 1974, publié sous le titre « Les anormaux ». Dans les pas de Michel Foucault, vous dénoncez, Geoffroy de Laganerie, la place croissante de l'expertise psychiatrique dans l'institution judiciaire.
Oui, alors je dis deux choses sur la psychiatrie parce que c'est très très important la psychiatrie dans le système pénal. La première chose pour moi d'abord, on en parlera peut-être un peu après, mais la psychiatrie d'abord, ça, il y a une certaine grandeur de ce qu'ont essayé de faire les psychiatres, même si jamais on est plutôt, moi très critique de ce qu'elle fait aujourd'hui, mais à l'origine quand même la psychiatrie, c'était un savoir qui s'est mobilisé pour arracher les gens à l'état pénal. C'est-à-dire qu'il disait il y a un certain nombre d'individus qui ne doivent pas être jugés et qui doivent être considérés comme irresponsables pénalement parce qu'ils sont traversés par des forces irrépressibles ou parce qu'ils sont altérés ou parce que le discernement est biaisé, etc. Et par conséquent, ils relèvent du soin et ils ne relèvent pas de la peine. C'est-à-dire qu'au début, quand même, le savoir psychiatrique a été un savoir en guerre contre l'appareil répressif d'État et un savoir qui voulait arracher des gens à la prison, arracher des gens aux juges pour les traiter ou pour, en tout cas, les excuser psychiatriquement.
Et dans un second temps, il est devenu l'allié de cet appareil
exactement.
Pénal.
Alors, c'est important parce que ça veut dire que on peut faire fonctionner un savoir contre un appareil de pouvoir. Et la psychiatrie l'a fait. Mais c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, avec ce qu'on observe très, très majoritairement dans l'appareil répressif d'État, c'est à quel point le moment où déposent les psychiatres ou les psychologues est un moment extrêmement fort dans un procès d'assises. C'est une obligation, il y a toujours un psychologue et un psychiatre qui vient parler. Et au fond, eux se croient très intelligents, très malins, etc. Mais au fond, ce qu'ils font à chaque fois, c'est de produire une forme d'endogénéisation du crime, ce que j'appelle dans mon livre. C'est-à-dire qu'ils vont référer le crime non pas aux conditionnements sociaux de la personne qui les a subis, mais à des traits internes à sa personnalité. Et comme si, en fait, le crime n'était pas un rapport du monde au monde ou un rapport de l'individu au monde, mais un rapport de l'individu à lui-même. Alors, je prends l'exemple d'un braqueur dans mon livre qui était professionnalisé dans le braquage, qui était né dans une famille dans les bidonvilles de Nanterre, qui était lié de l'immigration algérienne, etc. Et qui, de façon la plus traditionnelle, comme les gens dépossédés économiquement, s'était mis dans une trajectoire braquage, prison, etc. Le psychiatre qui dépose pour expliquer pourquoi il braque va dire non, mais c'est pas du tout parce qu'il est pauvre, ou c'est pas du tout parce qu'il y a le capitalisme, ou c'est pas du tout parce qu'il y a l'oppression économique, ne croyez pas ça. C'est parce qu'il a une structure personnelle du manque. C'est-à-dire qu'il vit sa vie sur le mode de « il me manque quelque chose », et par conséquent, comme il me manque quelque chose, avec sa pulsion qu'il appelait « d'avoir », il veut toujours plus que ce qu'il a, et par conséquent, il braque. En d'autres termes, il dépolitisait la question du braquage, de l'inégalité économique, il dépolitisait la question du vol, pour rendre ça comme il faut qu'il soit content de sa vie, qu'il arrête de vouloir plus que ce qu'il a, et ça, on va le redresser socialement. Alors c'est intéressant ça, parce que, effectivement, comme dit Foucault, ça veut dire que, dans nos sociétés, de plus en plus, le crime est dramatisé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement considérée comme étant simplement le fait que on transgresse la loi, mais quelque chose d'autre qui devient lié à la morale, qui devient lié à des pulsions asociales, qui devient lié, et le crime devient la manifestation de quelque chose qui est en dehors du crime, une personnalité dangereuse en quelque sorte, ce qui veut dire que la punition n'a pas un rapport seulement à sanctionner un délit, mais à redresser un individu et se met dans une problématique de soins en fait. Mais il y a eu une alliance entre la psychiatrie et l'état pénal, alors qu'avant c'était des savoirs contradictoires.
Et ce qui se joue aussi ici, Geoffroy de Laganerie, c'est la guerre que se mène la sociologie d'un côté et la psychologie et la psychiatrie de l'autre, qui a expliqué aussi à une époque la haine des marxistes pour les freudiens par exemple.
Oui, absolument, je pense que l'un des enjeux pour moi, c'est de dire que le savoir le plus déstabilisant pour le monde social, c'est la sociologie. Que depuis Durkheim, en gros depuis Émile Durkheim, à la fin du 19e, ses grands livres sur le suicide, sur la division du travail, sur la religion, il y a eu un traumatisme de la pensée sociologique, si on veut faire un peu d'histoire des idées, et par exemple ce que montre très bien Ziv Sternel dans son livre sur l'histoire du fascisme, c'est que, par exemple, le fascisme a été en grande partie une réponse à la sociologie, une grande partie une réponse à la crise que produisait dans les perceptions, dans les politiques, la question du savoir sociologique. Et je crois que le savoir sociologique reste un savoir extrêmement déstabilisateur parce que, précisément, il entre en confrontation avec des institutions qui reposent sur des analyses antisociologiques. Oui. Quand vous êtes sociologue et que vous vous rendez dans une cour d'assises ou dans un procès, vous voyez un monde qui fonctionne de manière irrationnelle ou de manière faux, comme dit Adorno, c'est-à-dire qui repose sur des hypothèses que le savoir vous dit qu'elles sont démentes. démentis par la réalité. Donc vous avez affaire à des institutions qui nient la réalité, qui nient le savoir, et donc il y a effectivement un conflit entre le savoir sociologique et les institutions qui doit pousser à faire de la sociologie une science déstabilisatrice, ne pouvant pas s'appuyer sur la sociologie, la justice s'appuie sur la psychiatrie pour produire une autre narration du monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la justice ne juge pas des actes, la justice, elle juge des narrations des actes. Elle juge une image du monde qu'elle construit elle-même, elle juge une matière pénale qu'elle auto-crée lors du procès, et l'un des savoirs qui est aujourd'hui complice de l'appareil répressif d'État, ce sont les psychiatres et les psychologues.
Mmh. Et alors justement, face à cela, quel peut être le rôle du sociologue, Geoffroy de la Guenerie? Ce que vous proposez, c'est de repenser la totalité, et vous citez l'exemple d'une bagarre entre 4 SDF. Comment le sociologue va-t-il appréhender cette bagarre justement par rapport à la justice?
C'est un procès qui m'avait traumatisé, ça. C'était deux, ou je sais plus, quatre clochards, peut-être, qui s'étaient battus devant les SDF, s'étaient battus devant une église. Il était tôt, ils buvaient du mauvais rosé, je sais pas, ils étaient chauds, etc. Ils étaient dans la promiscuité, la précarité, la pauvreté la plus extrême, et puis ils se sont battus comme on peut se battre dans ces situations-là. Et l'un est tombé et l'un est mort. Voilà. Moi, je tire dans mon livre cette question, c'est comment peut-on, d'une situation comme ça, dire il faut juger quelque chose? Enfin, je veux dire, il faut quel type d'abstraction, de mythologie, de pulsion mauvaise il faut avoir en tête pour se dire on va enfermer 8 ans, il a pris 8 ans, hein, le SDF qui a produit un coup, qui a produit la mort, ça aurait très bien pu être lui qui meurt. C'est une interaction qui a produit la mort, ça n'est pas un individu, c'est une situation sociale. Et donc, le point de vue du sociologue, c'est de dire que ce qui produit la mort, ici, c'est la scène de la dispute, le cadre de la dispute, qui est lié à tout un ensemble de situations comme l'économie, la précarité, l'alcool, la promiscuité, la dépossession, donc aussi les systèmes qui organisent ces exploitations, et que à partir de ce moment-là, si on veut chercher un responsable, c'est la scène qui est responsable de la mort, c'est pas chaque individu. Ce que va faire l'État pénal à l'inverse, c'est détotaliser la situation, c'est-à-dire de faire comme si, en fait, c'était seulement des individus qui s'étaient battus de manière atomistique, et donc l'ensemble du procès va porter sur qui a porté le premier coup, est-ce que c'était au niveau de la tête, est-ce que c'était au niveau du ventre, qui a porté le deuxième coup, avec quelle intensité, quand est-il tombé, etc. Qui sont en fait des manières de faire passer une scène collective en une agrégation de scènes individuelles. Donc il y a une opération de détotalisation qui est à l'œuvre pour pouvoir juger, et à ça le sociologue dit non, la responsabilité, elle est dans la scène elle-même, elle n'est pas dans les individus qui ont été eux-mêmes victimes de la scène, en fait.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes, comme on dit, qui peuvent être mobilisées et expliquer, par exemple, qu'effectivement, le contexte a joué dans cette bagarre et dans ce meurtre?
Moi, je vais vous dire la vérité, mais peut-être je me trompe, mais c'est possible que je me trompe. Hein. Mais moi, à chaque fois que je parle de ce livre, on me parle des circonstances atténuantes. Moi, je n'ai jamais vu de circonstances atténuantes dans un procès. Je n'ai jamais vu cette question posée, je n'ai jamais vu cette problématique mise en place, etc.
Circonstances sociologiques atténuantes, ouais, parce qu'il y a d'autres formes de circonstances atténuantes, et notamment les questions psychiatriques.
Oui, alors en fait, moi, c'est pour ça que j'inverserai la question. Je pense qu'en fait, la circonstance atténuante, si tant est que ça existe, moi je vois que ça n'existe pas, mais si tant est que ça existe, ça devrait être posé inversement. C'est-à-dire, on devrait plutôt partir de l'irresponsabilité, partir des cadres sociaux qui produisent les interactions, et ensuite se poser peut-être la question, est-ce qu'il reste un peu de libre-arbitre? Est-ce qu'il a resté un peu de responsabilité? Est-ce qu'il y a des circonstances culpabilisantes ou des circonstances individualisantes, malgré l'ensemble des forces sociales qui ont pesé sur les individus, plutôt que se poser la question de partir d'une fiction qui est, c'est les individus responsables, et est-ce qu'il y a un peu de société? Or, la vérité, c'est la société. La vérité, vous l'avez cité avec Laurent Mukeli, c'est 95% des meurtriers qui sont des fractions précarisées des classes populaires, donc on devrait partir de l'idée d'irresponsabilité sociologique, et peut-être parfois poser la question de circonstances individuelles, mais c'est le cadre même qu'il faut interroger, et pas seulement ratifier cette petite, un peu, comment est-ce qu'on pourrait, part de mauvaise conscience qui est à l'œuvre dans le système.
Ce qui est assez stimulant, Geoffroy de la Guenerie, c'est le parallèle que vous dressez entre l'État pénal et l'État social. Vous espérez que l'État pénal fera le même chemin que l'État social, qui a, lui, par exemple, collectivisé les phénomènes comme celui de la maladie.
Oui, j'aurais juste peut-être revenir sur ce qu'on a dit sur la scène du clochard, ça me semble important sur la question de l'État pénal. Moi, je crois que c'est très important de penser que je crois beaucoup à la valeur de la raison, au raisonnement, à la rationalité, et je pense que très souvent les juges ou les magistrats pensent qu'ils sont du côté d'un système rationnel, d'un système qui apaise, qui fait les choses de manière calme, les cours d'assises ont pris du temps, etc., par opposition aux passions que serait la vengeance irrationnelle, que serait la vendetta, que seraient les pratiques mystiques dans d'autres sociétés, etc., pour régler la question des conflits. Et donc, il y a une croyance dans le fait que la justice a un rapport à la rationalité et au calme. Et moi, je crois que très profondément, et on le voit sur le sujet des quatre clochards, mais on le voit sur l'ensemble de l'appareil répressif d'État, en fait, c'est une pratique magique, la justice. C'est-à-dire que il y a une pratique totalement magique. Moi, j'ai été frappé par le fait qu'en gros, de plus en plus, je le dis comme ça, mais le tribunal, c'est une scène qui transforme du traumatisme en temps. C'est-à-dire qui va, de manière totalement arbitraire et totalement injustifiable, dire bah, un braquage c'est 8 ans, un viol c'est 5 ans, un meurtre c'est 18 ans, mais pourquoi 18, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait la justice pour moi de plus en plus est une opération complètement mythologique qui va transformer, vous savez quand il y a des verdicts, on dit voilà le braquage de Saint-Malo, 8 ans, qu'est-ce que ça veut dire? En fait la justice est une opération qui transforme du crime en temps. Et ça, c'est une pratique rituelle, c'est une pratique mythologique qui n'est strictement injustifiée. On ne peut pas justifier 8 ans plutôt que 7, plutôt que 6, ça n'a aucun sens. Et donc, je crois qu'il est très important pour moi de rappeler le caractère totalement irrationnel, totalement mythologique de l'appareil répressif d'État et la méchanceté.
Et la force de l'habitude.
Et la force de l'habitude, absolument. Mmh. Et c'est effectivement une institution qui ne peut justifier l'habitude que par l'habitude. Et très souvent, quand vient le moment de la justification des peines, moi, je pense qu'il est impossible de justifier une peine. Il y a un avocat que j'aime beaucoup, il s'appelle François Saint-Pierre, qui a gagné, je crois, au Conseil constitutionnel, là, au Conseil constitutionnel, je sais plus, le fait que les cours d'assises devaient maintenant motiver les peines et pas seulement la culpabilité. Je pense que c'est un très bel acquis, sachant que pour moi, je pense que c'est impossible de motiver une peine. Je pense que c'est impossible de justifier 7 plutôt que 8 ans. Enfin, c'est impossible le temps à justifier. Et donc, on voit là qu'il y a une dimension purement d'habitude. Ancré dans nos sociétés et qu'il faut vraiment prendre en compte le caractère complètement ahurissant de ce dispositif pour l'interroger radicalement parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui vont en prison pour qui ça coûte leur vie, leur amour, leur temps. On sort pas de prison comme ça, on sort souvent avec des maladies, avec la gale, avec des boutons. Il y a un reportage de Street Press qui avait travaillé sur ce qui se passe à Fresnes où c'est vraiment ahurissant ce que ça veut dire être en prison, ça veut dire être mutilé, ça veut dire que les juges quand ils disent vous allez en prison, ils disent je vais vous donner la gale, je vais vous donner de l'herpès, je vais vous donner peut-être d'être violé, etc. Donc il faut comprendre que la justice qui se fait passer pour pacifier et rationnelle, en fait, est violente et mythologique.
Et sur ce lien alors entre l'État pénal et l'État social, le parallèle qu'on peut établir...
Ah oui, pardon, j'étais parti sur autre chose. Mais en fait, c'est vrai que, moi, je ne suis pas du tout un anarchiste. Donc je ne serais pas du tout, par exemple, quelqu'un qui va dire qu'il faut abolir l'État, ou l'État a un rapport nécessaire à la punition, et l'État est nécessairement violent, etc. Je pense que l'État est une instance hétérogène, est une instance contradictoire, est une instance parfois très positive, rationalisatrice, protectrice, on peut penser au droit du travail, on peut penser à l'école publique, on peut penser à la sécurité sociale, et puis c'est une instance aussi qui peut être très violente, ça peut être la police, ça peut être l'armée, ça peut être la justice, etc. Ce que Bourdieu appelait la main droite de l'État et la main gauche de l'État. Donc l'État n'a pas d'unité. Et ce que j'ai voulu montrer en parlant de l'État social, c'est que précisément dans l'État est déjà à l'œuvre le fait d'avoir récusé l'idée de responsabilité individuelle et d'avoir collectivisé la question de ce qu'on fait. Et que c'est le texte de Bourdieu ou de Rémy Lenoir sur les accidents du travail qui ont montré comment il y a eu des conquêtes à la fin du 19e siècle qui étaient liées à la naissance de la pensée sociologique, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle tout un ensemble de pratiques qui étaient pensées comme ayant leur origine dans les individus, doivent en fait être pensés comme des risques collectifs à assurer collectivement. La maladie, par exemple, plutôt que de penser les gens sont responsables s'ils ont telle maladie, s'ils contractent la grippe, s'ils contractent le sida, s'ils contractent la lèpre, j'en sais rien, de penser ça en termes de phénomènes sociaux et donc à assurer collectivement, ce qui fait qu'on assure collectivement les individus, même s'ils ont pu prendre des risques individuellement. De la même manière, les accidents du travail, par exemple, Rémy Lenoir a montré comment pendant très longtemps ça a été pensé comme étant de la faute de l'ouvrier qui devait parfois dédommager son patron, et le savoir sociologique a dit que c'était en fait un risque inscrit dans les conditions objectives du travail et qui par conséquent devait être assumé par le patron et assuré collectivement. Donc ça a été un renversement au nom de la pensée sociale de passer de responsabilité individuelle à l'idée de conditionnement et de risques sociaux à penser dans la responsabilité et sociale, et donc c'est toute la société qui le prend en charge.
Et l'État pénal pourrait suivre le même chemin.
En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est déjà à l'œuvre dans le monde social de savoir excuser, en fait, de savoir socialiser la question des pratiques, et que par conséquent, qu'est-ce que voudrait dire appliquer à l'État pénal, au crime, au délit, les schèmes de pensée qui sont déjà à l'œuvre dans l'État social.
Avant de parler de la question de l'excuse, qui est effectivement importante, vous disiez que le rôle du sociologue Geoffroy de Laguenerie, c'était de repolitiser le contexte dans lequel se sont déroulés les faits reprochés. C'est déjà ce que disait Jean-Paul Sartre à propos du militant Roland Castro, vous le citez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode?
Mais de fait, c'est très important, en plus ça se passe beaucoup en ce moment. Si on va sur la répression des Gilets jaunes, c'est exactement les mêmes histoires qui sont posées, c'est drôle. En fait, il y a eu, l'histoire, c'est un livre que j'ai écrit en 2015, donc je me souviens plus de tout parfaitement, mais je sais qu'il y avait eu 5 sans-papiers ou travailleurs immigrés qui étaient morts parce qu'ils se chauffaient avec des poêles à gaz, je sais pas trop, ça avait brûlé dans un foyer, ils étaient morts. Il y avait eu donc une protestation devant le siège du CNPF, du patronat français, avec des gens comme Sartre, Genet, donc Roland Castro, des syndicalistes, des militants qui étaient venus pour protester contre la manière dont le patronat traite les sans-papiers, les travailleurs tout simplement. ils avaient occupé les locaux, l'armée ou les CRS plutôt étaient venus pour les déloger. Et puis, dans une interaction donnée, Roland Castro a peut-être bousculé deux CRS pour ne pas être arrêté, quelque chose comme ça. Donc, il a été arrêté.
Sauf qu'au moment du procès, cet aspect politique ne va pas du tout apparaître.
Exactement. Et en fait, ce que dit Sartre, c'est que la seule question que se posent les juges, c'est est-ce que Roland Castro a touché ces deux gendarmes? Est-ce qu'il y a eu une interaction entre les gendarmes et les CRS? Et ce que dit Sartre de manière très belle, c'est qu'en fait, cette séquence, si elle est abstraite, découpée, singularisée de cette manière-là, on comprend pas du tout qu'est-ce qui s'est passé dans cette interaction. Cette interaction, en fait, elle doit être comprise en relation avec la politique du patronat, avec la répression gouvernementale, avec les luxes sociales, avec le rapport aux travailleurs immigrés ou aux sans-papiers, et qu'en fait, cette interaction, elle est seulement une conséquence de tout un ensemble de totalités politiques qui étaient à l'œuvre, et que la justice se fonde sur le fait de dépolitiser cette scène pour en faire, en fait, un fait divers d'une interaction entre une personne et deux autres personnes. Et que, par conséquent, le rôle du sociologue, c'est aussi de requalifier les faits. Quand on parle de la bataille des SDF dont on a parlé tout à l'heure, moi je me pose de plus en plus la question, par exemple, est-ce qu'il faut dire que ces individus ont été déterminés économiquement à produire cette interaction, ou est-ce qu'il faut pas même dire plus loin que la justice a appelé meurtre, au fond, c'est la forme qu'a prise la dépossession économique à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est pas seulement une causalité, c'est la manifestation de la dépossession économique qui a pris la forme meurtre à ce moment-là et qui s'est actualisée à ce moment-là. De la même manière, Roland Castro, c'est pas l'histoire d'un individu qui a peut-être bousculé deux gendarmes, c'est l'histoire d'une lutte politique contre le traitement des travailleurs qui s'est aussi incarnée sur cette scène, mais la justice le récuse totalement. On a vu exactement cette histoire-là, je le dis, dans le procès des meurtriers de Clément Méric, hein, c'est-à-dire où effectivement la famille, les militants antifascistes ont toujours dit, ce n'est pas seulement le procès de trois personnes qui sont accusées et qui ont agressé Clément Méric et qui l'ont tué, c'est le procès de toute la montée de l'extrême droite, de la manif pour tous, du soutien gouvernemental et de la droite traditionnelle à la manif pour tous, de la manière dont il y a une mobilisation de la droite contre les militants antifascistes et la gauche à ce moment-là. Donc il y a une responsabilité collective dans la mort de Clément Méric et c'est pas seulement un fait divers de trois individus contre un autre.
Et en même temps, on reproche souvent à Geoffroy de Lagannerie, aux sociologues qui mettent en avant les causes sociologiques des comportements criminels, de vouloir justement excuser les criminels. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un écueil dans lequel les sociologues ne devraient pas tomber? C'est souvent présenté comme ça.
Oui, je l'ai dit sur la psychiatre, je pense que le fait qu'un savoir puisse être utilisé pour arracher des gens à l'état pénal, ça s'est déjà produit, que la psychiatrie l'a fait, donc on ne voit pas très bien pourquoi la sociologie ne pourrait pas le faire. Il n'y a aucune raison de penser que la sociologie ne pourrait pas excuser comme les psychiatres excusent. D'autre part, ce que je dis aussi très fréquemment, c'est que l'excuse est un principe constitutif du droit contemporain. Et que quand vous ouvrez le code pénal, après la phrase sur la responsabilité individuelle, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, vous avez la déclinaison de toutes les causes d'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire en fait toutes les causes que l'État organise pour lesquelles vous ne serez pas jugé, même si vous avez tué, volé, abattu quelqu'un, etc. Ça peut être la folie, ça peut être la légitime défense, ça peut être la force irrépressible, ça peut être l'ordre légitime, etc. Donc l'État pénal lui-même produit déjà des irresponsables. Et on pourrait même dire ceci, on pourrait même dire que la définition de l'État pénal et du droit pénal se joue dans ces moments où on décide de ne pas juger et de ne pas punir quelqu'un. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'État pénal comme une force négative. Mais je dis juste ça parce que ça me semble important à dire. Au fond, réagir spontanément à un traumatisme par la pulsion de vengeance, bon, c'est assez spontané, je veux dire, c'est pas très original comme pulsion. Par contre, ce que fait l'État pénal, c'est précisément de mettre des règles pour freiner cette pulsion-là et parfois la rationaliser et parfois l'entraver. Donc parfois, dire il était mineur, il était fou, il était altéré, il était en légitime défense, donc on ne va pas le juger, on ne va pas le punir, ou on met des règles comme la prescription ou la règle de minorité qui permet de ne pas juger. Donc en fait, l'État pénal se joue. Le droit, sa valeur du droit, c'est de ne pas punir. En fait, si on devait chercher l'originalité du droit, c'est dans les moments où on décide de ne pas punir. Et je pense effectivement que si on comprend que l'idée de droit est liée à l'idée de rationaliser la pulsion de vengeance pour produire des gens qui ne seront pas punis, et que c'est à ça que ça sert le droit. Et si on comprend qu'il y a un savoir sociologique qui met en question l'idée d'individuation des perceptions et donc de responsabilité individuelle, en connectant les deux, on voit qu'on peut avoir une alliance entre état de droit et sociologie pour produire une justice qui excuse.
Chercher des éléments qui excusent, c'est justement le rôle de l'avocat. Je voudrais qu'on écoute la parole d'un avocat.
Le premier acte de l'avocat, c'est de trouver en lui-même ce qui peut défendre celui qui est en face de lui. Quand on est en face de lui, quand on lui parle, il y a un moment, c'est un être humain, il y a un moment où se passe un contact. Alors c'est peut-être une faculté particulière qu'a l'avocat. Peut-être une faculté particulière d'essayer de... Comment on peut le défendre? Comment? Et vis-à-vis de soi-même, c'est pour ça que tout le monde se moque de Valls, qui a dit une formule assez effrayante quand on y va, il dit « comprendre, c'est déjà excuser ». On n'a pas à les comprendre, comprendre, c'est déjà excuser. Bon, alors, mais c'est vrai, au fond. En définitive, quand je dis « il faut les comprendre », c'est aussi pour les excuser, d'une certaine façon. Et c'est là le travail de l'avocat.
L'avocat Henri Leclerc, dans une interview réalisée par Mediapart le 20 septembre 2017. Alors, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'avocat de mettre en avant la dimension sociologique des crimes que vous dites nier, Geoffroy de La Gannerie ?
Je suis tellement content de cet extrait, parce que j'aime beaucoup, beaucoup Henri Leclerc. J'avais fait des choses avec lui, j'avais lu ses mémoires. Enfin, c'est évidemment une grande, grande personnalité de la pensée du droit et de la pratique de la défense. Il se trouve que quand Valls avait prononcé cette phrase et que beaucoup, beaucoup de sociologues, enfin qui se croient sociologues, ont cédé à l'offensive conservatrice de Valls en disant non, nous n'excusons pas, nous laissons les juges faire leur travail, on laisse tout le monde aller en prison, c'est pas notre problème, nous on dit juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, etc. Alors que moi je dis que puisqu'on sait que la justice fonctionne sur des hypothèses antisociologiques, la sociologie est en guerre contre la justice. Et je me suis dit tout à coup, j'entends cet entretien là de Henri Leclerc qui dit bah oui, c'est vrai, expliquer c'est excuser, comprendre quelqu'un c'est l'excuser, c'est-à-dire excuser c'est chercher les causes en dehors, excuser c'est vous chercher quelque chose qu'a fait quelqu'un en dehors de lui-même, et c'est le principe même de la pensée sociologique. Donc il y a un rapport entre pensée sociologique et pensée de l'excuse. Excuser, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que parce que quelqu'un a agressé quelqu'un, on ne fait rien, on dit, voilà, il est excusé sociologiquement. C'est-à-dire qu'on cherche autrement la responsabilité et autrement, qu'est-ce qu'on a à transformer ou qu'est-ce qu'on a à mettre en question quand il se passe un fait qu'on considère comme étant un délit. Alors effectivement, l'avocat... Moi, je vois que l'avocat est une profession impossible, en fait. Je l'avais écrit dans un texte sur Thierry Lévy, à la mort de Thierry Lévy, qui est donc l'un des grands avocats aussi radical du XXe siècle, qui est mort récemment. Et je crois qu'effectivement, l'avocat est dans une situation impossible, en fait, est mis dans une situation impossible où, dès que le procès pénal est en jeu, c'est mort. C'est-à-dire que la logique est trop forte, l'individuation des perceptions est trop forte, vous pouvez pas casser un système de l'intérieur d'un système.
On peut travailler à amoindrir la peine.
Voilà, mais non, mais ça, c'est très bien et formidable, hein, y a aucun problème par rapport à ça. Mais d'un point de vue sociologique ou politique, je pense que les avocats sont dans une situation déprimante. Enfin, moi, je les compare souvent aux anarchistes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être pris dans un système qu'on veut pas et devoir y être malgré soi. C'est comme être né dans un État quand on veut pas d'État. Enfin, c'est une situation d'étouffement intolérable. Et je pense qu'il y a un rapport très très grand, moi, entre les avocats et la pensée anarchiste. D'ailleurs, c'est pas un hasard que même des avocats de droite parfois sont fréquentent beaucoup d'anarchistes ou défendent beaucoup d'anarchistes. Il y a un rapport entre l'anarchisme et le fait d'être avocat, parce que c'est le fait d'être par son métier ou par sa vie quand on est anarchiste, pris dans un système qu'on veut pas et devoir malgré tout y vivre.
Vous parlez beaucoup, Geoffroy de La Gannerie, de de récit, et oui. Vous appelez également à déconstruire la représentation du prétoire comme une scène de théâtre, une représentation qui a été largement construite par la fiction et qui participe de ce récit.
Oui, c'est vrai que je le raconte quand... Moi j'adore les faits divers. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup d'émissions de faits divers, de films, de romans, etc. Je lis énormément là-dessus. Et je me souviens que quand on voit de la culture, comment la culture traite la question pénale, elle en fait toujours une scène magistrale. Elle en fait toujours une scène impressionnante, les grandes tirades, le procès comme moment intense, comme moment de vérité, avec des coups d'éclat, etc. Et puis vous vous rendez dans un procès, aux assises, en correctionnel, en comparution immédiate. Vous avez affaire à la machinerie la plus ordinaire, la plus plate, la plus ennuyeuse du monde, la plus routinisée. Et donc, il y a un écart énorme entre la manière dont la culture nous construit, nous préconstruit des images de la justice et la vérité de l'institution judiciaire, qui est une scène en fait pas du tout intimidante, pas du tout grande, pas du tout grandiose, mais une scène très routinisée, bureaucratique. Ce qui m'a fait dire, moi, qu'il y avait une forme de mensonge à l'œuvre dans la culture, comme une forme de légitimisme, étatisme symbolique. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si les gens de culture voulaient grandir l'État plutôt que de le déshabiller, enfin montrer qu'il était déjà nu, et il voulait en quelque sorte attacher une forme de comment je pourrais le dire, de valeur à la scène judiciaire, comme s'il voulait donner quelque chose à l'État qu'il n'avait même pas, et qu'il y avait un rapport entre la culture et la domination symbolique de l'État sur nos têtes, et que de ce point de vue, on présente souvent la culture comme étant le lieu de l'imagination, donc de la libération. Moi, je pense que l'État est dans ce point de vue-là, en tout cas, la culture est un principe de domestication, c'est-à-dire nous met dans la tête des images que l'État veut nous mettre dans la tête, alors que la sociologie, en étant juste descriptive, est beaucoup plus libératrice parce qu'elle nous libère des fausses images de l'État.
Mes frères noirs crèvent parce que l'État n'a pas su juger. La justice a deux vitesses et sont toujours les mêmes qui ont les rêves brisés. Quand je suis dans la rue, c'est contrôle sans cesse. Et en plus, ce sont les tipis de ma race qui me stressent. Moi je veux faire des choses magnifiques et constructives. Et c'est pas question de cul, car tu vois, je n'ai pas le fric. Il faudrait tout d'abord qu'on nous entende. Donc juste droit de la presse. Donc à la base, le message s'étend. Je m'accroupis à l'horizon et je vois que les mômes s'agitent. Il m'avait dit, mais l'enfilo, c'est la crise. Donc on casse tout. On vient pour braquer la commune. On veut les sous de ceux qui possèdent la fortune. Les vitrines, elles sont à nous. Ouais. Les commerces,
rien à foutre.
La justice imprime, mon frère, donc je dis tout.
Rien à foutre, fils.
Faut pas que tu pleures, car c'est ce qu'ils veulent que tu fasses. Que tu craques, que tu ruines tout. Ils veulent que tu te fâches contre l'État. Parce que tu vois, c'est plus facile. Et ensuite, on dira que la jeunesse est difficile. Alors lève ton bras en l'air pour qu'il y ait d'évolution. Des solutions avant que ce soit la révolution. Monsieur juge, je vais pas faire l'objet d'une incarcération. Si je coupable, si je combat au rang de ma génération. C'est pas bon, c'est quand son prix de sang ça. Pour un braco. Le trafiquant narco, il roule toujours libre en taco. Je constate qu'on nous laisse pas de chance. Ouais. Je comprends, c'est la justice en France.
EOP, ça y est, ils peuvent plus nous SCOP. C'est loupé, l'EOP c'est déjà bien trop développé. On a pris le mic et en parlant à la foule, prouver que même avec les stigmates primates, pouvait faire péter l'audimat à la poule ou à la Chirac.
Non, non,
à la Lonbou ou à la Irak. D'abord dans le métro, on y rentra à l'époque comme des vrais héros. Tu sais, pour faire des gros traits ou des grosses fesses, fallait en avoir de très grosses. Pas prendre ses jambes à son cou, c'est féroce, que c'est là à son tour un jour, y'a pas inversement des rôles. Une verse à moi et je déraille, c'est drôle. C'est gras et petit qui paiera pourri, mais qui se la raconte plus que Perrault. Touriste en musique zéro, ils sauront ce qu'ils méritent. Et quand justice sera faite, m'appellerai sous le rappeur en série. OP, ça y est, peuple, nous STOP, c'est loupé. OP, c'est déjà bien trop développé.
Et le zoo, ça y est, peuple, nous mater comme au zoo. Même si on zone, cela t'a plus la couche de zone.
Canadropé, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, c'est déjà bien trop développé.
Ouais.
On écoute Que justice soit faite de Zoxéa et Mélopé sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. L'état pénal est sur le banc des accusés aujourd'hui avec Geoffroy de la Gannerie. On a vu que la dimension sociologique était occultée au moment du jugement. Qu'en est-il au moment de la peine? Pour répondre à cette question, vous vous êtes intéressé, Geoffroy de la Gannerie, à la figure du procureur plutôt qu'à celle du juge. Pourquoi ce choix?
C'est vrai que d'habitude, la manière dont la justice est mise en question, c'est à travers la figure du juge. Et c'est vrai que quand on pense à la justice, on pense au juge, spontanément. Et d'ailleurs, l'une des manières spontanées dans la tradition critique, en fait, à mise en question la justice, que ce soit chez Foucault, que ce soit chez Sartre, soit chez le marxisme, c'était de mettre en question la non-impartialité des juges. C'est-à-dire le fait que les juges, en fait, croyaient reposer sur des normes universelles ou des normes neutres, mais en fait, activaient socialement, politiquement, des grilles d'analyse ou des peines qui reproduisaient des inégalités sociales, pour le dire rapidement, et que, en fait, la justice qui se prétendait neutre était bourgeoise, pour le dire vite. Enfin, on le voit chez Foucault, on le voit chez Sartre, on le voit chez beaucoup de sociologues américains. Et donc, il y a un biais judiciaire. En gros, la problématique du biais, qui est très 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 structurante en fait dans la pensée de la théorie critique, elle est vraie, hein, cette problématique du biais. Et moi, je pense qu'elle n'est pas suffisante parce qu'elle ne met pas en question l'idée de jugement. Mais bref, ayant dit ça, je me suis rendu compte qu'il y a un personnage dont on parle très peu, qui est à droite quand vous entrez dans une cour d'assises, comme par hasard d'ailleurs, et qui est le procureur ou l'avocat général en cour d'assises, c'est-à-dire qui représente l'accusation. Comme vous savez, dans une cour d'assises, en fait, et en correctionnel d'ailleurs, vous ne comparassez pas avec un juge avec qui vous accuse, qui serait votre victime. Ce qui vous accuse, c'est soi-disant la société, enfin quelqu'un qui dit parler au nom de la société, ou de l'ordre public, qui s'appelle l'avocat général ou le procureur, et c'est lui qui se pose comme la victime, et c'est lui qui va essayer de démontrer votre culpabilité, qui va essayer de réclamer une peine pour le délit que vous avez ou que vous êtes accusé d'avoir commis. Le procureur, pour moi, c'est une question tout à fait centrale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un crime ? En fait, la question qui se pose, c'est de quoi est-on accusé quand on commet un crime? De quelle est la nature d'un délit dans l'état pénal? Il ne s'agit pas seulement de dire est-ce que les gens sont innocents ou coupables, pourquoi ils sont condamnés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En gros, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait un crime. Et en fait, l'état pénal contemporain, qui se fait passer là encore pour rationnel et pour et qui, d'un point de vue de la responsabilité, est individualisant, tout d'un coup, du point de vue de la peine, devient socialisant et se fonde depuis, en gros, le 18e, sur l'idée selon laquelle quand vous avez commis un crime, en fait, vous en avez commis deux. Vous en avez commis un contre votre victime, mais c'est le procès civil, ça c'est à côté, et vous en avez commis un contre l'État, contre ce qui s'appellerait la société, et que vous devez de l'argent et du temps ou de votre corps à la société, qui prendra la forme de la prison ou de l'amende. Et donc le procès pénal est un moment où l'État, en fait, construit le crime comme crime contre l'État.
L'idée que le criminel mérite punition parce qu'il aurait pu agir autrement, cette idée aujourd'hui si commune, si naturelle en apparence, si inévitable, et que l'on met sans cesse en avant pour expliquer comment est né le sentiment de justice, est en fait une forme tout à fait tardive et même raffinée du jugement et du raisonnement humain. Celui qui la place dans les commencements se méprend grossièrement sur la psychologie de l'humanité primitive. Pendant la plus longue période de l'histoire humaine, on n'a nullement puni parce qu'on tenait le malfaiteur pour responsable de son action, donc pas du tout en supposant que seul le coupable doit être puni. Non, comme le font encore aujourd'hui les parents avec leurs enfants, on punissait par colère, du fait qu'on avait subi un dommage et l'on passait sa colère sur l'auteur du dommage. Mais cette colère se trouvait limitée et modifiée par l'idée que tout dommage trouve son équivalent d'une façon ou d'une autre, et peut être réellement compensé, serait-ce par une douleur infligée à son auteur. D'où a-t-elle tiré son pouvoir? Cette immémoriale idée profondément enracinée, aujourd'hui peut-être inextirpable, d'une équivalence entre dommage et douleur.
Un extrait de la généalogie de la morale de Nietzsche, lu ici par Cédric Fuentes, d'Entendez-vous l'écho. Il y a toujours cette croyance, aujourd'hui encore, que la souffrance infligée au criminel compensera la souffrance qu'il a causée?
Oui, c'est vrai qu'il y a une... je ne sais pas si c'est vrai ça en plus. En fait, parce que c'est d'autant plus étrange que du point de vue de l'État pénal, si on croit à l'idée selon laquelle la personne est punie pour un crime contre l'État, c'est un crime imaginaire. C'est-à-dire que moi, ce que je défends dans mon livre, c'est que le fait qu'il y ait de la souffrance de l'État parce qu'il y aurait eu un vol, par exemple, si là je vous vole 50 euros dans votre portefeuille, vous êtes souffrante, d'accord, on peut considérer que je dois vous dédommager, d'accord, mais l'État va dire, moi aussi j'ai souffert comme État, moi aussi j'ai subi un dommage, vous avez mis en danger la propriété, vous avez mis en danger l'État de droit, etc., donc je vais vous mettre en plus 2 mois de prison et vous demander 2000 euros d'amende. Ça, c'est un dommage imaginaire. Donc c'est pour ça que même l'économie psychique dont parle Nietzsche, qu'il y aurait un rapport entre souffrance et infliger la souffrance, l'État est un inventeur de souffrance. C'est-à-dire, c'est même pas qu'il a souffert, donc il produit de la demande de souffrance contre autrui, c'est qu'il invente lui-même sa douleur pour ensuite en infliger à autrui. Mais il y a un truc qui est intéressant dans la suite de la citation de Nietzsche, et je me permets de le dire parce que Nietzsche dit quelque chose de très très beau, il dit « Il faut jamais croire que la punition et que l'appareil répressif d'État peut engendrer la mauvaise conscience chez les criminels, parce que quand vous regardez l'État, ils font des mêmes actions que ce qu'ils punissent chez les gens. C'est-à-dire en fait vous êtes puni pour vol, mais l'État vous prélève des impôts ou vous prélève des amendes, ce qui est une forme de contrainte de vous prélever de l'argent. L'État vous punit pour enlèvement alors qu'il vous met en prison. Et qui vous arrête, que c'est un enlèvement, il vous met en prison, c'est de la séquestration.
Alors on vous répondra que l'État a la légitimité pour le faire.
Voilà, mais ce qui veut donc dire que ce qui est puni, ce ne sont pas les actions. C'est en fait l'État tue, l'État séquestre, l'État enlève, l'État vole, l'État mutile, on le voit avec les gilets jaunes aujourd'hui. Et donc en fait, c'est pas vrai qu'il y ait des actions qui sont interdites ou des actions qui sont considérées comme ne pouvant pas se produire, parce qu'en fait les actions, l'État s'autorise à les produire, mais il y a que l'État qui a le droit de les faire. C'est-à-dire que l'État est l'instance qui se réserve le droit de produire les actions qu'il décrète illégales sur les autres. Et ça, ça veut bien dire quelque chose de très très important, c'est qu'en fait l'enlèvement n'est pas interdit en France. Ce qui est interdit, c'est de le faire sans autorisation de l'État. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est défini dans l'article du Code pénal sur la question de l'enlèvement. Et donc, ça veut dire que l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que serait qu'un État qui renoncerait inconditionnellement à un certain nombre d'actes? La peine de mort, ça a été ça. Si on interdit le meurtre, il faut l'interdire pour tout le monde et pour l'État aussi. Qu'est-ce que serait qu'un État qui interdirait les coups pour tout le monde? Donc pour l'État aussi. Qui interdirait le vol pour tout le monde? Qui interdirait, vous voyez ce que je veux dire?
Donc
ça, c'est
vous,
une idée intéressante.
Finalement, il n'y a pas de contre-violence légitime de la part de l'État, comme dirait Max Weber.
C'est intéressant de poser cette question parce que dans le livre que je suis en train d'écrire, je critique très violemment je discute, disons, la notion de violence légitime. Je crois que, par définition, il n'y a pas de violence légitime. Parce que tout simplement, le délinquant, si on veut, est quelqu'un qui, par construction, à partir du moment où il a décidé de produire un acte contraire à celui de la loi, reconnaît pas la loi comme légitime. Donc la met en question dans sa légitimité à s'appliquer à lui. Surtout qu'on n'a jamais demandé à appartenir au corps social, que très souvent on n'est pas l'auteur des lois qui s'appliquent à soi. Et que par conséquent, moi je dis qu'il y a une contradiction interne à la notion de violence légitime. Si jamais il y a légitimité, si vous reconnaissez la valeur des cadres étatiques, vous vous comportez comme le veut la loi, donc il n'y a pas de violence. Et d'ailleurs, dans toutes les théories politiques de la légitimité, comme chez Rawls, il n'y a pas de théorie de l'état pénal parce qu'on considère que les gens obéissent à la loi. Mais si jamais vous reconnaissez pas la loi comme légitime, si jamais vous récusez la pertinence de la loi, alors vous allez produire des actions contraires à l'ordre juridique, il va y avoir violence. Donc en fait, s'il y a légitimité, il n'y a pas violence. Et s'il y a violence, il n'y a pas légitimité. Donc effectivement, pour moi, la problématique de l'état pénal n'est pas une problématique de la légitimité, c'est une problématique de la souveraineté et de l'application par l'État d'un ordre violent, quoi.
Vous disiez que l'État fait de l'acte délictueux au criminel une agression contre la société entière.
Oui.
C'est une idée qui remonte au philosophe des Lumières, en réalité.
Oui, absolument. En fait, très, très, c'est une idée qu'avait aussi beaucoup Foucault dans Surveiller et punir, lorsqu'il dit qu'au fond, on a pensé comme ça que les Lumières ont inventé la liberté, l'autonomie du sujet, les droits politiques, etc. Mais qu'il y a une face sombre de la modernité qui a été l'invention, lui pense, de la police, il le dit dans Sécurité, territoire, population, l'invention des disciplines et l'invention de l'État pénal, en fait. Et c'est vrai que dans les philosophie des Lumières, il y a eu cette tendance, chez Beccaria par exemple, chez Rousseau, à penser qu'en fait tout crime était un crime contre la société, à faire du crime une espèce de scène dramatique dans laquelle ce qui se joue, c'est la survie de la société elle-même, et que par conséquent la société doit, encore que corps collectif, se venger contre le criminel par l'intermédiaire de son sacrifice de son corps ou de son temps, par la prison ou par l'amende. Moi, je pense que véritablement une contre-offensive à l'appareil répressif d'État doit se fonder sur une destruction de l'idée de société, c'est-à-dire une destruction de l'idée selon laquelle il existe quelque chose qui s'appellerait la société qui serait endommagée par le crime, mais qu'elle doit également, si vous voulez, dédramatiser le crime. Dans l'espace public, dans l'espace intellectuel, on a l'impression que le crime, c'est toujours quelque chose de très très grave, ou le délit, que se joue la survie de la société, que c'est moi, je pense qu'il faut dédramatiser la question de la commission des illégalismes, et qu'il faut essayer de l'aborder de manière plus sereine, plus rationnelle, plus dédramatisée, et que ça aiderait beaucoup à la mise en place d'une pénalité, je sais pas si ce serait le mot, mais d'une justice plus humaine et plus généreuse.
On peut dire que ce qui domine actuellement dans notre société, je crois, de la Gainerie, c'est le droit répressif, mais cela pourrait être tout aussi bien le droit restitutif, pour reprendre les catégories établies par Durkheim. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie?
Mais effectivement, l'une des questions que se pose Durkheim dans la division de travail social, bon, l'une des questions qui traverse aussi la pensée économique, la pensée néolibérale notamment, c'est qu'est-ce qui doit se passer quand il y a un dommage qui est produit à autrui? Et est-ce que ça doit être dans le mode de la répression, en fait, qui plutôt domine dans l'état pénal, évidemment, c'est la définition même du droit pénal, ou alors dans le dédommagement, c'est-à-dire est-ce que vous devez dédommager la personne qui a été biaisée par votre action, et vous devez faire en sorte qu'il y ait une réparation, en fait, du délit, mais qui se fait à ce moment-là de manière immanente, de manière interindividuelle et de manière pluraliste, c'est-à-dire que ça dépend de la manière dont les individus ont vécu ce qui leur arrive, et pas d'une manière homogène comme le fait l'état pénal contemporain. Donc effectivement, l'une des pistes possibles, ça ne veut pas dire que c'est la seule, hein, et pas du tout, mais l'une des pistes possibles de l'attaque de l'état pénal aujourd'hui, du démantèlement de l'état pénal, c'est de concevoir la réponse au crime sur le mode du dédommagement, de la réparation interindividuelle, beaucoup plus que sur le mode de l'expiation et de la cérémonie du sacrifice d'État, en fait. Et c'est ça, c'est un enjeu très très important. Je pense que de ce point de vue-là, on peut en parler. Je pense que on dit beaucoup qu'on vit dans des sociétés néolibérales. On dit beaucoup que la société contemporaine est animée par des logiques néolibérales. Moi, dans le livre, je cite beaucoup d'économistes néolibéraux qui disent qu'en fait, si on appliquait les principes néolibéraux au crime, 80% des gens sortiraient de prison immédiatement, parce que le néolibéralisme, qui est contre l'idée d'État, d'intérêt transcendant, considère que le crime doit seulement être une affaire de réparation interindividuelle, et donc il n'est pas question de donner de l'argent à l'État et en plus d'aller en prison, si jamais on peut se dédommager individuellement. Donc ça veut dire que dans la manière dont est géré aujourd'hui l'État pénal, on a une rationalité qui n'est pas néolibérale. Et ce n'est pas vrai que nous vivons dans des mondes néolibéraux, nous vivons dans un monde qui est plutôt social, et on dit beaucoup qu'il y a une crise de l'État social. En fait, l'état pénal est un état social. C'est-à-dire que c'est un état qui repose sur des catégories sociales, sur la catégorie de société, sur la catégorie de corps collectif, sur la considération d'intérêt commun, etc. Et donc, en fait, il y a eu une forme de resignification des concepts sociaux à l'intérieur de l'appareil répressif d'État au nom de la répression, et que de ce point de vue-là, c'est pas vrai qu'on vit aujourd'hui une crise de l'État social. Seulement, l'État social, voilà, les problématiques sociales ont été réinvesties par l'État comme un instrument de répression. Et je pense que moi, on pourrait trouver dans la rationalité économique une critique très forte aujourd'hui de l'appareil répressif d'État.
Et alors cette vision libertaire du droit dont vous parlez suppose d'exclure l'État ou du moins d'en faire un simple arbitre, et c'est peut-être une vision qui permet en tout cas de penser une nouvelle définition du crime, Geoffroy de la Gainerie ?
Oui, je pense que de fait, il faut... Si on applique le paradigme économique, on perçoit le crime comme un débit. En fait, les économistes, ils vont définir une victime comme un débiteur qui l'a pas voulu. En fait, c'est ça, une victime. Mais plutôt peut-être plus politiquement, je pense que l'une des choses les plus importantes, moi, qui m'intéresse, c'est que l'État pénal fonctionne à l'homogénéisation. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose, l'État s'impose à vous. Il y a Cover, qui est un grand juriste abolitionniste, qui dit que l'État est un voleur. En fait, l'État arrive et vous vole votre expérience, vous vole vos conflits, et il impose une manière de le penser, il impose un vocabulaire, il impose une procédure, il impose du temps, il impose beaucoup de coups d'avocat, etc. Il impose une finalité qui est la prison. prison ou qui est le... Et ils vous dépossèdent de votre histoire. Et ils dépossèdent les victimes de leur histoire, et ils dépossèdent les auteurs de leur histoire. Et tout se fonde sur l'appropriation par l'État de nos histoires d'une manière homogène, d'une manière préconstruite et d'une manière qui, en fait, fait de la violence sur les victimes, sur les coupables, sur tout le monde. À ça, moi, je pense qu'une vision plus sociologique, plus immanente, penserait que la justice devrait plutôt être pluraliste, c'est-à-dire devrait suspendre la question de qu'est-ce que c'est qu'être victime. Qu'il y a des gens pour qui, effectivement, être victime est très grave, il y a certains qui vont vouloir pardonner. Aujourd'hui, on ne peut pas pardonner. En France, si on pardonne, ça ne change rien du tout à la poursuite de l'action pénale. On sait qu'il y a eu des clochards qui ont été punis pour avoir volé du fromage dans le frigidaire de chez quelqu'un. Et les gens ont dit, non, mais bien sûr, on ne va pas le poursuivre. Le procureur a poursuivi, il y a eu 6 mois de prison.
Vous dites qu'il faut une victime pour qu'il y ait crime.
En fait, oui. Il faut qu'il n'y ait pas de crime sans victime. Ça, c'est, je pense, c'est le base même d'une société démocratique. Mais que, en plus, l'État doit être neutre du point de vue de qu'est-ce qu'être victime. Et qu'il y a des gens qui vont pas du tout vivre un certain nombre d'actes comme une victime et que d'autres vont le vivre de manière effectivement très dure. Et il faut pas du tout juger ni l'un ni l'autre. Mais qu'il faut organiser de manière pluraliste la manière dont on va sortir d'un conflit. Et que le rôle de l'État, ça devrait être de donner des instruments pour que les individus gèrent de manière rationnelle la sortie d'un conflit plutôt que homogénéiser, déposséder, se saisir et produire de la violence en réponse à la violence.
Imaginez-vous le 14 janvier 2011. Avenue Bourguiba, à Tunis. Ben Ali fuit. Le pays commence son long processus, qui n'est toujours pas fini, hein, de transition. Les questions qui vont se poser, entre autres, parmi toutes les autres, ça va être, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de tous les représentants de l'ancien régime ? Qu'est-ce qu'on fait de tous les membres du parti, le RCD, qui était le parti de Ben Ali ? 150 000 policiers, c'est énorme pour une population de 10 millions aussi, qui étaient tous aussi impliqués dans des exactions, que ça soit torture, viol, disparition forcée, etc. Qu'est-ce qu'on fait donc de tous ces gens ? Comment est-ce qu'on peut établir la vérité sur ce qui s'est passé déjà pendant la Révolution ? Vous savez qu'il y a eu 400 morts, plus de 2500 blessés. Comment savoir qui a tiré, qui a donné les ordres, etc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les victimes du régime ? Alors que ça soit les blessés de la Révolution, les gens sur qui on a tiré pendant les manifestations, ou aussi toutes les victimes de Ben Ali et de Bourguiba, comment est-ce qu'on réécrit l'histoire ? Toutes ces questions, donc, c'est des questions, vous voyez, qui sont très réelles, très concrètes. La justice transitionnelle, c'est en gros ce qui essaye d'y répondre.
Voilà la juriste Cora Andrieux lors d'une conférence donnée à Strasbourg en 2013. Que nous apprennent Geoffroy de la Gannerie ces dispositifs de justice transitionnelle qu'on a pu observer également en Afrique du Sud après l'apartheid ou au Rwanda après le génocide ?
Oui, je suis très content qu'on finisse là-dessus parce que en plus j'aime beaucoup le livre de Cora Andrieux sur la justice transitionnelle. Effectivement, c'est des expériences de justice qui ont été menées notamment dans les situations post-génocidaires ou post-guerre internes à une société pour essayer... Si vous voulez, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça montre qu'une justice non pénale est déjà possible et existe déjà. En fait, ça a été l'idée de créer des formes de justice dans lesquelles la question n'était pas forcément d'identifier des individus coupables, n'était pas nécessairement d'envoyer en prison, mais sur le mode d'une société qui se réconcilie avec elle-même, de produire des récits, que les gens avouent ce qu'ils ont fait, que les gens, comme victimes, disent à quel point ils ont souffert, etc., et que se produisent par le récit, par des juges qui n'étaient pas nécessairement neutres, par la suspension de la question de la répression et de la punition, une autre manière d'affronter au présent la question du crime et de pouvoir en sortir. C'est très intéressant parce que très souvent, on croit que la répression est liée à la gravité du crime et qu'on voit pas très bien comment est-ce qu'on pourrait ne pas réprimer quand il y a un viol, quand il y a un meurtre. Ce qui est très important, c'est que les expériences génocidaires sont tellement graves que c'est à ce moment-là que la justice pénale n'a aucun sens. C'est-à-dire c'est toute une société qui est coupable et victime en même temps, ce qui fait que mettre des gens en prison est absurde par rapport à la quantité de choses qu'il faut régler. Et c'est dans ces moments où les faits étaient si graves qu'on a été obligé d'inventer une justice non pénale, d'inventer un autre type de justice. Donc on ne peut pas invoquer la gravité des crimes pour forclore notre imaginaire judiciaire, mais peut-être c'est justement dans ces zones où les sociétés sont confrontées au plus grave et au plus traumatisant qu'on a le foyer d'invention de justice plus humaine pour nous aujourd'hui.
Et vous disiez dans une interview qu'il y avait des mouvements féministes aujourd'hui qui essayaient de non pas de reproduire ce dispositif de justice transitionnelle, mais d'affirmer que leurs dénonciations ne doivent pas aboutir nécessairement à la prison.
Alors effectivement, il y avait un grand mouvement dans les années 70, notamment autour de Simone de Beauvoir, qui essayait de faire vivre un féminisme non répressif et non pénal. C'est-à-dire qu'il se battait à la fois dans les grandes batailles sur le viol, sur la reconnaissance du viol, évidemment, sur la nécessité de porter plainte, sur la nécessité de dénoncer les faits de viol, de les qualifier pénalement.
Parce que ce qui est dit souvent sur les histoires de viol, c'est que les peines sont insuffisamment élevées au regard de la gravité des faits.
Voilà, et ces courants féministes disaient qu'il ne faut jamais indexer à une lutte lutte d'émancipation à la violence d'État et qu'on ne réglera pas la question de la domination masculine, de la misogynie, de la violence faite aux femmes par l'incarcération massive, par l'augmentation des peines. C'est une question très importante, ça, politiquement, pour moi. On l'a vu avec le mouvement MeToo, où très souvent, on pense que répondre à un sujet social, c'est une réponse pénale. Donc, on va diminuer l'âge du consentement, on va augmenter la répression, on va augmenter l'âge de la prescription, etc. Et on pense que répondre à... On va créer un nouveau délit, comme le harcèlement de rue, etc. On pense que répondre à un fait social, ça passe par plus de répression. Moi, je pense que c'est une urgence vraiment très importante aujourd'hui d'inventer des manières non répressives de répondre à un fait et de comprendre que c'est pas la même chose de lutter pour la pénalisation d'un fait et de lutter contre un fait. Et ça, je pense que dans le féminisme des années 70, il y avait cette imagination-là et qu'il faut retrouver aujourd'hui.
Et c'est l'heure de retrouver Amélie Perrot pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Amélie.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
De la nourriture sous vide au stage de survie, vous vous intéressez aujourd'hui au marché du survivalisme.
Et oui, car demain s'ouvrira à Paris le salon des survivalistes, ces gens qui se préparent à survivre et à affronter des cataclysmes. Et autour de ces peurs, c'est bien tout un marché qui s'est mis en place, d'abord aux États-Unis et désormais en France. Rations de nourriture, matériel médical, gilets pare-balles et stages de survie, mais aussi livres, jeux vidéo et même désormais un magazine qui tire à plus de 30 000 exemplaires, magazine dans lequel vous apprendrez par exemple à construire votre BAD, comprenez base autonome durable, c'est-à-dire le logement dans lequel vous vous réfugierez pour survivre en cas de crise. En France, entre 100 et 150 000 personnes font partie de la communauté survivaliste sur les réseaux sociaux. Il y a donc bien, en matière de survie, un marché.
Et les survivalistes ont donc désormais leur salon.
Absolument, et c'est même la deuxième fois que ce salon se tient en France. Beaucoup de grandes enseignes commerciales y sont associées, ainsi que l'armée l'année dernière, qui devait voir là une possibilité de recrutement. Le salon a été créé par trois anciens étudiants en école de commerce qui disaient au journal Le Monde vouloir rompre avec la caricature du survivaliste terré dans son bunker. Désormais, leur mot d'ordre, c'est celui d'autonomie.
Autonomie, car la peur, Amélie, sur laquelle repose le survivalisme, est devenue finalement une peur économique.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, la peur apocalyptique ou nucléaire est devenue une peur du système de marché. Quand le mot survivaliste est apparu aux États-Unis dans les années 60, il désignait plutôt des gens terrifiés par le communisme et la menace nucléaire, d'où cette image du survivaliste empilant des boîtes de conserve dans un abri anti-atomique. Or, le sociologue Bertrand Vidal explique dans la revue Ouzbek Erika qu'aujourd'hui, et surtout depuis la crise financière de 2008, la peur est devenue économique et écologique. Pour la plupart des survivalistes français, il s'agit désormais d'anticiper l'effondrement de notre système et d'apprendre à vivre en autonomie, en dehors du marché, et même dans un certain retour à la nature.
Mais le paradoxe, c'est que le marché vend donc lui-même les outils pour survivre à sa faim.
Eh bien oui, parce qu'en attendant, la culture de consommation perdure. Bertrand Vidal raconte même que sur certains forums, on se demande quelle serait la meilleure cigarette électronique pour l'après-effondrement. D'ailleurs, les stages de survie sont aussi vendus aux entreprises pour encourager l'esprit d'équipe de leurs salariés. Il faut quand même dire que certains survivalistes boycottent le salon, justement pour son aspect commercial. Tous ne sont pas d'accord. Et de façon générale, le survivalisme regroupe des tendances très différentes, de l'extrême gauche anarchiste et anti-productiviste à l'extrême droite xénophobe et libertarienne. L'année dernière, par exemple, au salon, la présence de Piero San Giorgio, un proche des milieux d'extrême droite, avait embarrassé. Il venait vendre le livre dans lequel il théorise un effondrement économique menant à une guerre généralisée, livre dont il a republié une édition de combat avec une couverture moins fragile que l'édition précédente. Cette tendance survivaliste d'extrême droite, c'est celle qui domine aux États-Unis, où le marché du survivalisme est encore bien plus développé qu'en France. Le directeur d'une marque de matériel de survie expliquait par exemple au New York Times que ses ventes avaient ralenti après l'élection de Donald Trump, car, dit-il, c'est quand les démocrates sont au pouvoir que la droite panique.
Mais aux États-Unis, Amélie, la Silicon Valley se prépare elle aussi à l'effondrement.
Oui, c'est un reportage assez incroyable du New Yorker qui le racontait. Les milliardaires de la technologie se préparent à la fin du monde. Le cofondateur du réseau social Reddit explique s'être fait opérer des yeux pour survivre plus facilement. Et Reid Hoffman, de LinkedIn, veut acheter une maison en Nouvelle-Zélande pour s'y réfugier. Il estime aussi que la moitié des milliardaires de la technologie se sont fait construire un abri. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce que beaucoup craignent, explique le New Yorker, c'est le chaos qui serait créé par une révolte du pays contre eux-mêmes, contre la Silicon Valley, notamment après que l'intelligence artificielle aura remplacé de nombreux emplois. Ces milliardaires se préparent donc, paradoxalement, à l'effondrement du modèle dont ils sont eux-mêmes arrivés au sommet, espérant, après l'apocalypse économique, demeurer les premiers.
se quitte avec la bande originale des Combattants, un film de Thomas Caillet dans lequel Madeleine, incarnée par Adèle Haenel, se prépare activement justement à la fin du monde. Merci beaucoup Geoffroy de Laguenerie d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'indique pour les auditeurs que votre prochain ouvrage, Le Combat Adama, écrit avec Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, sortira chez Stock le 3 avril. Et demain, comme chaque vendredi, on se retrouve pour une table ronde d'actualité économique. La finance verte peut-elle sauver la planète? Élément de réponse demain à partir de 14h. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.